Tamani, voici nos informations en français.
Vendredi 1er juillet 2022, il est 18h. Bonsoir à tous et bienvenue. Les titres de ce journal. Par faute de visa, des pèlerins maliens n'arrivent pas à se rendre à la Mecque pour le Hajj. La maison du Hajj et les agences de voyage se rejettent la responsabilité. Le sommet des chefs d'État de la CEDEAO est attendu ce dimanche 3 juillet à Accra, au Ghana. Après l'adoption d'une loi électorale et la présentation d'un calendrier électoral, les sanctions seront-elles levées? Les détails dans ce journal. La foudre a fait hier 2 morts à Kolondjeba dans la région de Sikasso. Pour des mesures de prévention, les responsables de la météo demandent à la population d'être prudent durant cette période. À la présentation de ce journal, Adama Mamadou Haïdara, à la mise en onde, Mamadou Attara. De nombreux pèlerins maliens n'ont jusqu'à présent pas pu se rendre à la Mecque pour le Hajj. La maison du Hajj impute cette situation à certaines agences qui auraient dépassé le quota qui leur a été alloué. Mais les agences de voyage réfutent ces allégations. Draman Meiga nous fait le point.
La maison du Hajj affirme que les pèlerins sont bloqués à Bamako faute de visa. Une situation qu'elle juge inadmissible dans un communiqué publié ce vendredi 1er juillet. Selon les responsables de la maison du Hajj, certaines agences privées se sont rendues coupables de spéculation sur la question des visas. Ils précisent que ces agences ont pris de l'argent avec de potentiels candidats au Hajj au-delà de leur quota. Pourtant, les agences de voyage affirment ne pas se reconnaître dans ces allégations. Selon elles, les annulations du Hajj en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie sont la première source de ce blocage. Ces annulations ont provoqué l'accumulation des candidats. À cela s'ajoute la réduction du nombre de quotas maliens cette année par les autorités saoudiennes, expliquent les responsables d'agences privées. De plus de 13 000 pèlerins, nous nous sommes retrouvés avec un quota de 6 032 pèlerins à partager entre la filiale privée et gouvernementale, déplore-t-il. Il faut souligner que parmi les candidats bloqués à Bamako, certains sont venus des régions et se trouvent bloqués dans les dortoirs de la maison du Hajj.
Les mines serrées, les visages crispés de certains pèlerins en disent long sur leur situation. À la maison du Hajj de Bamako, ils sont nombreux à attendre leur départ à la Mecque. Entre espoir et désolation, certains d'entre eux ne cachent pas leur frustration. Écoutons-les au micro de Fatoumata et Draman Meiga.
Nous sommes venus de Sikasso. Nous sommes bloqués ici depuis 10 jours.
L'année dernière et celle d'avant, nous n'avons pas eu la chance d'aller à la Mecque. Et cette année, nous sommes là depuis le mardi. Ils disent de patienter un peu.
On s'est inscrit au niveau des Kadjolo. Mais cette année, on a eu une déception. Donc, arrivé ici à la maison du Hajj, on a constaté que beaucoup de pèlerins sont partis. Donc, c'est à peu près notre 4e jour. On ne donne pas des renseignements concrets.
Depuis 3 ans, on nous fait tourner ici. Nous n'en pouvons plus. Il y a des gens qui ont payé cette année qui sont déjà arrivés à la Mecque. C'est de l'injustice.
Depuis 2020, on a payé l'argent jusqu'à présent. L'agence nous disait qu'ils n'ont pas de visa. Alors qu'ils ont pris l'argent des gens de 2022, ces gens sont partis.
Je viens de Kourou.
À toutes ces informations, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les chefs d'État de la CEDEAO se réuniront ce dimanche 3 juillet 2022 à Accra, au Ghana, pour un sommet ordinaire sur le Mali. À l'issue du dernier sommet, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'a pas pris de décision concernant une levée des sanctions contre le Mali. Elle a opté pour la poursuite des dialogues avec les autorités maliennes en vue de parvenir à un chronogramme détaillé et consensuel. Toutefois, des actions ont été posées par la transition malienne, notamment l'adoption de la loi électorale et la présentation d'un calendrier électoral. Moussa Mali Sissoko nous donne les détails.
Des négociations sont en cours depuis des mois entre les autorités maliennes et la CEDEAO. Elles n'ont jusque-là pas abouti à un compromis. Les dirigeants de la CEDEAO devront statuer ce 3 juillet sur les sanctions concernant le Mali. Les chefs d'État de l'Organisation Ouest-Africaine se sont séparés sans accord après plusieurs heures de huis clos le 4 juin dernier. Ils n'ont pas pu s'entendre sur une décision à l'unanimité. La conférence des chefs d'État a donc instruit au médiateur Goodluck Jonathan de continuer la discussion avec les autorités autorité de transition du Mali. À cet effet, l'ancien président du Nigeria est venu à Bamako le 23 juin dernier pour rencontrer les autorités. Si rien n'a officiellement filtré des échanges, certaines sources indiquent que le Mali a fait d'énormes progrès. Les lignes semblent bouger quant aux réponses aux exigences de la CEDEAO. Les autorités ont présenté ce mercredi 29 juin un calendrier électoral qui fixe la présidentielle à février 2024. L'annonce de ce calendrier a été précédée par l'adoption d'une loi électorale le 17 juin dernier par le Conseil national de transition CNT. Alors ce sommet sera-t-il une aubaine pour la levée de l'embargo sur le Mali? La réponse sera certainement connue le 3 juillet prochain à Accra au Ghana.
Les dégâts causés par la foudre se multiplient depuis l'installation de l'hivernage. À Kolondjeba, dans la région de Sikasso, deux personnes frappées par la foudre hier ont succombé. En conséquence, la météo invite la population à la prudence pendant cette saison. Il conseille également de tenir compte des prévisions météorologiques. Mariam Koulibaly nous fait le point.
C'est un frère et sa sœur qui ont été victimes de la foudre d'hier dans le cercle de Kolondjeba, région de Bougouni. Les faits se sont déroulés pendant qu'il pleuvait, quand ils tentaient de ranger la moto de leur père dans la maison, selon le témoignage de Mamadou Traoré, habitant à Kolondjeba.
Dans ce moment qu'il est en train de faire rentrer la moto dans la chambre, et tout de suite, il a appelé le petit frère, le petit sœur plutôt, de venir m'aider à pousser la moto. Donc, il y a eu la foudre. Entre-temps, on a évacué les deux à l'hôpital, mais malheureusement, ils ont quitté.
Il faut couvrir les objets lumineux et éviter de manipuler les téléphones pendant qu'il pleut. Voici entre autres conseils donnés par le lieutenant-colonel Djatiki Diara, directeur régional de la protection civile de Bamako.
L'utilisation des téléphones Android sous la pluie, c'est vraiment déconseillé. Les tasses aluminium ou les choses qui brillent dans nos maisons, les miroirs, nous devons tout faire pour les couvrir. Ça, c'est quand même éviter la foudre.
Depuis le début de l'hivernage, la foudre a provoqué un incendie à l'usine de coton de Koumantou dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 mai 2022. Selon les responsables de la CMDT, 1352 balles de coton sont parties en fumée.
Rôle des médias dans la refondation du Mali et la stabilisation est le thème choisi pour cette première édition du Salon des médias du Mali. L'événement vise à promouvoir les hommes de médias et à élaborer un document de doléances à l'endroit des autorités. Le lancement s'est tenu hier jeudi au Palais de la Culture en présence du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'Administration, Maître Harouna Touré. Abdoulaye Touré était à la cérémonie.
Ce salon vient d'un constat, notamment celui de la nécessité d'avoir un espace d'échange dédié aux hommes des médias. C'est ce qu'affirme Issa Kaba Sidibé, président de la commission d'organisation. Selon lui, ce salon des médias permettra aux journalistes de mieux appréhender leur métier.
On va se retrouver pour réfléchir sur notre métier. Les attentes, c'est bien sûr, à la fin de ce salon, pouvoir mettre à la disposition des autorités du Mali un document ficelé qui va contenir tous les problèmes qui assaillent les hommes des médias et leurs solutions.
Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a profité de cette occasion pour exhorter les acteurs de l'information à plus de responsabilités. Maître Harouna Touré.
Vous êtes le premier pouvoir. Alors que doit-on attendre du premier pouvoir? C'est de former, c'est d'informer, mais c'est également de rassembler, de ne pas manquer du respect à un citoyen, quel qu'il soit, ou même à un visiteur. C'est aussi ça votre devoir.
Plusieurs panels et émissions seront animés lors de cet événement qui se déroulera jusqu'au 10 juillet. Des prix seront également décernés à certains journalistes.
Du sport dans ce journal, on connaît depuis hier jeudi les nominés pour le Ballon d'or africain de football. En basketball, le Mali participe à la Coupe du Monde des moins de 17 ans à Malaga en Espagne. Le résumé de l'actualité sportive avec Maria Maïga.
La liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d'or africain de football a été rendue publique jeudi soir. Trois Maliens figurent sur cette liste. Le capitaine des Aigles, Hamari Traoré, et les milliers de terrains Alou Dieng et Yves Bissouma. Le trophée sera remis le 21 juillet prochain à Rabat, au Maroc, lors de la cérémonie des CAF Awards. En plus du prix du meilleur joueur, d'autres distinctions seront remises. Il s'agit du prix du meilleur club et de la meilleure équipe nationale, du meilleur entraîneur, du meilleur joueur des compétitions compétition interclub de la CAF ou encore du meilleur jeune joueur. En basketball, le Mali participe à la Coupe du Monde des moins de 17 ans à Malaga en Espagne. Les Aiglonais évoluent dans la même poule avec le Liban, la Slovénie et les États-Unis. Pour leur première sortie ce samedi 2 juillet, ils seront face à la Slovénie. L'autre représentant africain à cette compétition est l'Égypte. À noter que le Mali est le champion d'Afrique de la catégorie.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Les échos des régions, les habitants du village de Kiri dans la commune de Koro, région de Bajangara, ont été sommés de quitter leur village hier par des hommes armés non identifiés. Malgré la présence des éléments des forces armées dans le village, les habitants disent avoir préféré quitter les lieux. Des centaines de personnes ont ainsi pris la route de Koro pour s'abriter. Le dépôt des dossiers concernant l'espace d'interpellation démocratique démarre ce vendredi 1er juillet à Gao. Le processus va durer 3 mois. À cette occasion, le chef du bureau régional du médiateur de la République a rencontré hier les hommes de médias à Gao. Selon lui, il est important que les populations soient impliquées dans le processus. Retrouvons à présent Mohamedou Touré pour l'introduction du Grand Dialogue de ce soir. Bonsoir Mohamedou.
Bonsoir Adama Amadou Haïdara.
Alors vous êtes à l'intérieur du pays, c'est quoi le thème du Grand Dialogue de ce soir?
Alors le Grand Dialogue de ce soir est délocalisé à Bandiagara. Comment la population vit-elle l'insécurité? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et nos invités sont Brahima Wologem, représentant des chefs coutumiers de Bandiagara, Ndinde Ongoiba, président du conseil de cercle de Bandiagara, Paul Togo, membre de la société civile, et Amadou Lougué, président du conseil local de la jeunesse. Je rappelle encore Adama Amadou Haïdara que le Grand Dialogue de Studio Tamani est délocalisé ici à Bandiagara pour parler de l'impact de l'insécurité sur la population.
Merci Mohamedou et très bon débat. Bonne écoute aussi à nos auditeurs. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bon début de week-end à tous. Le lancement officiel d'une campagne de chirurgie de la fistule obstétricale a eu lieu ce vendredi 1er juillet 2022 à Bamako. Elle est initiée par le centre de prise en charge de la fistule. L'opération est en cours depuis 10 jours. L'objectif est d'opérer une cinquantaine de femmes atteintes de la fistule. Certaines bénéficiaires auraient déjà commencé à recouvrir la santé. Le magazine Toutes les femmes du Mali est présenté ici par Aïssata Diarra.
Du Mali. Sur les 50 prévus à ce jour, 30 ont été pris en charge avec succès, selon le professeur Mamadou Lamine Diakité, chef de service d'urologie.
Nous sommes un service technique, donc il y a beaucoup d'autres pathologies. Souvent, on est obligé d'opérer les femmes porteuses de fistules avec d'autres pathologies. Mais pour donner beaucoup de chance à beaucoup de femmes d'être opérées, nous organisons des campagnes. On arrête toutes les autres interventions qu'on ne s'occupe que des femmes porteuses de fistules. Donc on a déjà opéré plus d'une trentaine de patients et le résultat est assez satisfaisant.
Parmi les femmes sous traitement, certaines n'en sont satisfaites du résultat après l'intervention. D'autres sont encore sous le choc, mais elles affirment toutes que le souhait de chaque femme est de guérir de cette pathologie et de pouvoir recommencer une vie normale.
Ça va mieux. Je ne pouvais pas m'arrêter à cause de la douleur de cette maladie. Je suis venue faire cette opération au CHI de Poingy. Aujourd'hui, il y a du mieux.
Ça ne va pas trop, mais la douleur a un peu diminué. Mon souhait est que je sois guérie.
Que les femmes atteintes de cette maladie ne baissent pas les bras. Si tu es atteinte, il faut de la propriété. Sinon, tu ne peux pas t'approcher aux gens. Je demande aux médecins de tenir compte de la prise en charge de celles qui sont à l'intérieur du pays.
La prise en charge de cette maladie n'est pas facile, affirme Dr Aïssata Samasekou, chirurgien urologue. Car des fois, les cas de certaines d'entre elles peuvent nécessiter plusieurs interventions chirurgicales.
Depuis l'arrivée de la femme, on peut d'abord le diagnostic si c'est vraiment une fistule obstétricale. Il faut d'abord qu'elle soit bien préparée. Souvent, quand la femme a la fistule, tu vas trouver que l'hygiène n'est pas vraiment ça. Donc, on les apprend à faire l'hygiène, faire des bains de sel, des traitements d'antibiotiques. Comment faire pour ne pas sentir dans la foule? Après l'intervention chirurgicale, reste dans les services d'urologie. pendant au moins 2 semaines. Et elle reste dans le centre pendant 3 mois. Après 3 mois, si elle est guérie, elle peut rentrer. Si elle n'est pas guérie, une nouvelle intervention se prépare. Et c'est le cycle qui continue.
Une centaine de fistuleuses ont été opérées lors des précédentes campagnes en 2021, indiquent les responsables du centre de prise en charge. C'est pourquoi ils invitent les proches des femmes atteintes de la maladie à les diriger vers ces centres. Cependant, ils demandent de l'aide pour la rénovation du centre qui est dans un état de délabrement. C'est ce qui met fin à ce magazine dédié aux femmes du Mali. À bientôt pour d'autres numéros.